Bonjour, je suis Chantal Calatayud. Je vous remercie d'être venue. Nous disions entre nous que c'était courageux un dimanche matin à 11h de venir, même s'il fait beau. Donc c'est sympathique. Alors j'ai la difficile tâche de parler de psychanalyse, même si c'est une discipline qui a plus de 100 ans, c'est quand même quelque chose qui demeure très complexe. Alors je compte surtout sur vous pour ponctuer en fait mon pseudo-discours de questions. Je trouve que c'est ça qui est intéressant. Donc il y a un micro-baladeur et vous pouvez tout à fait intervenir quand vous le voulez. Pour moi c'est plus agréable, plus dynamique et puis ça m'aide aussi à avancer. Alors je suis psychanalyste. J'ai créé il y a maintenant pas mal d'années sur Avignon l'Institut français de psychanalyse appliquée. Établissement donc dans lequel je forme de futurs psychanalystes, art-thérapeutes aussi et psychothérapeutes, tout cela bon des sens analytiques. Par ailleurs, à l'aide d'une équipe très dynamique aussi qui a pris naissance au sein de l'Institut de psychanalyse, eh bien nous avons mis en place la revue Psychanalyse Magazine, qui s'est d'abord appelée le Journal de la psychanalyse, et qui est une revue donc que l'on trouve en kiosque presse. C'est une revue qui a pour sens un petit peu tout comme ma présence et la présence de l'équipe de Psychanalyse Magazine, de désacraliser la psychanalyse. Nous sommes plusieurs professionnels à en avoir un petit peu assez, notamment par presse interposée ou par méthodes audiovisuelles multiples et variées interposées, d'entendre raconter n'importe quoi sur la psychanalyse, indépendamment du fait que depuis quelques années, malheureusement, certains membres du gouvernement en place nous assimilent à des sectes de façon plus ou moins déguisée. C'est vrai qu'il faut que ces choses-là, erronées, s'arrêtent pour la bonne raison que la psychanalyse obtient pardon, de bons résultats en prise en charge individuelle. Alors, je vous disais qu'il s'agit d'un sujet difficile. Pour la bonne raison que même transmettre comme ça la psychanalyse en groupe touche ce qu'on appelle des affects. Alors très souvent, bon, dans des assemblées un petit peu tout public, eh bien, on a aussi cette responsabilité à prendre en compte, à savoir qu'on n'est pas là donc pour abîmer quiconque. Alors encore une fois, je me répète, mais je préfère que vous interveniez si dans mon verbe quelque chose vous heurte ou si vous aviez une perception différente donc de ce que je vais essayer d'évoquer. Alors je vais commencer par moi, c'est très inhabituel, je vais vous livrer une anecdote qui m'est arrivée, peut-être pour illustrer tout simplement donc le sujet d'aujourd'hui, qu'est-ce que la psychanalyse? Parler de moi est impropre en analyse, on va plutôt parler de soi, mais entendre en tant que self, puisque la psychanalyse en fait est une interaction entre moi et l'autre. Il y a comme ça une espèce de lien qui peut être plus ou moins perturbé. On va dire qu'il peut être plus ou moins névrotique, je pense que tout le monde sait ce que cela veut dire, qui est un lien d'ailleurs quasi originellement fait d'amour et de haine, donc tout cela est très confus. Alors il m'est arrivé quelque chose donc il y a quelques jours, et vous verrez que ça prend en compte l'autre. L'autre n'est pas du tout péjoratif dans le discours analytique. Donc j'étais au téléphone un soir avec une amie qui me parlait d'un membre de son entourage qui se prénomme Patrick. Donc c'était en fin de journée et au niveau du cou, j'étais prise de démangeaisons, mais insupportables et j'ai des boutons qui sont apparus. On pourrait dire de façon très basique, compte tenu d'ailleurs des propos relativement négatifs, qui n'étaient pas d'ailleurs liés à un jugement, mais donc que cet ami tenait en ce qui concerne donc ce membre de son entourage, que j'en avais pris un coup. Et puis, c'est vrai qu'on dit que ce sont souvent les cordonniers les plus mal chaussés, bien qu'on soit rompu à une auto-analyse, bien qu'on sache en tant qu'analyste que les signes, notamment somatiques, ont un sens, j'ai un peu laissé ça de côté. Et puis, je me rendais compte au fil des heures, donc dans la nuit, le lendemain, que je bouffais une énergie incroyable avec ces démangeaisons. Alors, mon propre entourage, très éclairé, commençait à me dire, ben, n'aurais-tu pas changé de produit de beauté? Alors, je me suis un peu énervée en disant, oui, ça, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé. Et puis j'ai dit non. La journée a passé, vraiment j'étais mal et ça aussi c'est peut-être une déformation professionnelle. Je me suis dit je vais laisser du temps au temps. D'abord, bon, j'avais tout simplement besoin aussi d'avoir toute la vigilance compte tenu du métier que je pratique. Donc, je n'ai absolument pris aucun produit qui puisse endormir ces démangeaisons. Le problème s'amplifiait et puis mon mari me dit, mais tu es sûre, tu n'as pas changé de produit de beauté? Non. Puis ça m'énervait, donc il y avait quand même quelque chose qui devenait, j'étais agressive dans mes réactions. Sur ce, je vais dans ma salle de bain et je me rends compte que 48 heures plus tôt, effectivement, j'avais changé de produit de beauté. Donc il y a quelque chose que je n'avais pas voulu voir. Alors on va dire bien malgré moi, puisque je vais rentrer dans des détails très intimes, il s'agissait d'une base qu'on met sur le visage, mais il se trouve que à la parfumerie, on s'était trompé de produit, c'était la même marque, mais il y avait une variante. Et je me suis dit, alors tout d'un coup, les choses me sont revenues massivement, je me suis dit, ah ben d'accord, il y a peut-être un problème puisque je suis allergique au collagène. Donc, je regarde donc sur les conditionnements. Effectivement, je vois que sur ce produit que j'avais mis le lundi matin, donc à peu près 48 heures plus tôt, effectivement, il y avait du collagène. Et c'est vrai que je n'avais pas été bien quand j'avais appliqué ce produit. Et dès le lendemain, j'étais revenue, il me restait un fond du produit initial, donc j'avais continué comme cela. Puis là, je me suis dit, bon, je vais quand même essayer de faire un effort, c'est-à-dire, je me suis dit, bon, collagène, ça doit quand même bien te ramener à quelque chose d'important pour que tu continues à avoir comme ça cette éruption. Et puis, je ne me suis pas tellement cassé la tête, donc pour mettre en place ce qu'on appelle en analyse des associations libres, c'est-à-dire des associations d'idées, je me suis dit collagène, donc il y a cola qui te gêne, et cola, je me suis retrouvée face à la chanson populaire que tout le monde connaît, fais dodo, cola mon petit frère. D'autant que j'avais été prévenue le dimanche précédent, ma petite fille était chez moi, donc une petite fille qui a 4 ans et demi, et en pleine Oedipe avec son demi-frère qui était en bas de l'escalier, elle berçait un bébé imaginaire. Donc on voit que mon inconscient prévisionnaire préparait la chose de toute façon. Donc j'ai cherché, et puis il se trouve que j'ai une histoire un petit peu douloureuse, comme toutes les histoires, à savoir que lorsque je suis venue au monde, mes parents étaient mariés depuis 6 ans, donc j'avais un frère aîné, mais mon père à ce moment-là avait déjà une liaison, et il a attendu que ma mère accouche, pour partir donc vivre avec son ami, dont il a eu 2 enfants. Donc j'ai continué dans cette direction, et puis là, m'est revenu qu'un de mes demi-frères, que je ne vois pas, se prénomme Patrick. Bien sûr, je vois des gens qui ne connaissent pas mon histoire, mais qui l'anticipent. Et effectivement, donc mes parents étaient séparés géographiquement, puisque mon père vivait à l'étranger à ce moment-là, et ma mère en France au moment de la séparation qui a suivi. Et donc j'étais envoyée à certaines périodes de l'été en vacances chez mon père. Et bon, peu importe, il y avait du sadisme dans tout cela. Donc l'été 1957, j'avais à peu près 9 ans, oui, j'ai débarqué donc chez mon père et chez sa compagne, et elle était enceinte. Donc elle était enceinte de Patrick. Lorsque je suis arrivée à l'aéroport, toute contente, donc quelques semaines après, moi j'ai expliqué à ma mère que j'avais un petit frère. Ma mère n'était pas prévenue et j'ai engrammé une image d'horreur. J'ai vu peut-être l'angoisse et la haine de ma mère à la fois. Et quand elle a ouvert ma valise, elle a trouvé les photos du dit frère. Et je me souviendrai toujours qu'elle s'est mise à hurler en me disant, parce que je disais, mais c'est mon frère, il est joli. Elle me disait non. C'est pas ton frère, c'est ton demi-frère. Et puis d'abord, il n'est pas joli et il louche. Donc, on voit que depuis maintenant, donc près de 50 ans, Cola, ce petit frère, ce demi-frère me gênait. Et vous voyez que l'analyse, même l'auto-analyse, ce n'est pas quelque chose de très simple en fait. Puisqu'après des années et des années, alors moi de pratique, en plus de ça, professionnelle, eh bien malgré tout, j'avais ce que Freud appelait, j'avais coincé en moi, donc ce fameux affect coincé dont parle Freud. Alors il faut savoir aussi que la psychanalyse, c'est un travail donc bien sûr individuel de chaque jour. Alors ce travail individuel va permettre de s'humaniser, il va permettre de se socialiser dans un sens très protecteur. Donc encore une fois, ce n'est pas du tout quelque chose de sectaire, bien au contraire. Mais si j'avais aussi à illustrer la psychanalyse, je dirais qu'elle nous permet de sortir des recherches de conflits personnels et surtout de ne pas entrer ou de ne plus entrer dans les recherches de conflits que l'on peut toujours avoir au quotidien de la part d'un autre. Donc la psychanalyse nous fait prendre conscience très vite que cet autre qui nous agresse très souvent est en grande souffrance, même la plupart du temps est en grande souffrance, Et on va dire en analyse qu'il se trompe d'objet, c'est-à-dire qu'il est sur un transfert et très souvent, nous ne sommes pas du tout concernés, effectivement, par l'histoire fantasmatique qui est projetée sur nous. Alors, ceci me ramène aussi à l'histoire récente d'une patiente qui arrive en séance et qui me dit voilà, j'en ai marre, mon mari est soupaulé, moi je ne comprends pas, hier soir j'avais envie de regarder un film à la télévision. Bon, il avait l'air à peu près content et puis il a commencé un peu à s'énerver pour des raisons multiples et variées pendant le film et puis il a commencé à me parler de sujets de conversation de façon très négative. Moi, je ne comprends pas son caractère. Puis alors, elle me dit, alors je ne vous dis pas à la fin du film, il a carrément été odieux avec moi, me reprochant des choses qui n'avaient strictement rien à voir avec les moments qu'on venait de passer. Et là, de façon très simple, très basique, je lui dis, mais quel était le prénom du héros du film? Et elle me dit, ben, c'est le prénom de mon ex-mari. Donc, on voit aussi que sur des deuils pas faits, je ne veux pas tout ramener au prénom, hein, je vous prends ces exemples-là dans l'analyse et dans l'auto-analyse, les signes sont très très larges, mais on voit effectivement que l'autre est de toute façon un miroir à prendre en compte. Donc, l'analyse fait qu'on gaspille beaucoup moins d'énergie dès l'instant où, encore une fois, on a ce réflexe qui consiste à comprendre et à saisir que cet autre en face de nous a aussi une histoire qui est lourde, qui n'est pas toujours digérée, qui n'est souvent pas acceptée et donc qui est refoulée. Alors, le maître de la psychanalyse, je pense que tout le monde le sait maintenant, est Sigmund Freud. Et on pourrait dire aussi, si on établit un lien, qu'il a peut-être une histoire qui l'a mené effectivement à faire cette découverte extraordinaire donc, de ce qui est devenu grâce à lui, grâce à son génie, grâce aussi à son labeur, ce qui est devenu une méthode donc très intéressante. Donc le père de Sigmund Freud s'était marié à l'âge de 17 ans, donc très jeune, parce que même si on remet ça dans le contexte de l'époque, les hommes avaient tendance à se marier beaucoup plus âgés, vous savez que les familles étaient très exigeantes, et il fallait que, pour que le futur mari soit accepté, il fallait souvent qu'il ait une situation. Donc déjà, c'est quand même un père qui a eu un chemin certainement un petit peu particulier, et il a eu deux enfants, donc de ce premier mariage, donc Emmanuel et Philippe. Puis son épouse est décédée, il s'est remarié, et là Freud est devenu l'aîné d'une fratrie de neuf. Donc peut-être aussi, avant que l'expression soit connue, bien Freud appartenait à une famille dite recomposée, avec tous les malaises et tous les mal-êtres que cela peut engendrer, et dont la société prend conscience d'ailleurs actuellement, même s'il ne faut pas du tout être pessimiste. À ce niveau-là, je crois que de façon très symbolique, on a eu aussi, ça peut rester à l'état de symbole, mais bien sûr, une triangulation célèbre avec l'histoire de Marie, du Christ, bien sûr, et de Joseph. Et je me souviens, lors d'une homélie, d'un prêtre qui avait dit, oh, bah, tiens, voilà une histoire qui commençait bien mal. Et on voit bien aussi que les histoires qui commencent bien mal, si elles sont sublimées, peuvent entraîner de grandes choses. Donc, il est certain que le fait que Freud soit issu de cette famille l'a certainement conditionné vers une libéralité, dans la mesure où M. Freud, donc père, était un homme très très libéral pour l'époque. Et il a toujours dit à ses enfants, et en particulier à Sigmund Freud, fais ce que tu veux dans la vie, mais l'essentiel c'est que professionnellement, tu te sentes bien, tu sois heureux. Et en fait, c'est ce que nous essayons de transmettre, nous donc, avec la discipline psychanalytique. En ce sens que la psychanalyse ne prend absolument pas compte ce que l'on appelle les moi hiérarchiques. Il n'y a plus de rapport dominant-dominé. Tant mieux si des gens qui ont bac plus 15 sont très heureux. Ça, c'est bien, c'est un plus. Mais si on a quelqu'un qui n'est pas fait d'études et qui est heureux dans sa profession, eh bien, c'est aussi là l'essentiel. C'est ce que Jacques Lacan, donc des années après, a essayé aussi de faire passer comme message, avec aussi des phrases très célèbre comme s'autoriser de soi-même. Donc Freud a été tout petit un brillant élève, mais il s'est embarqué dans des études de médecine sans grande conviction, et très vite ce qu'il a étiqueté, ce qui l'intéressait, c'était le comportement donc de l'être humain. Donc il s'est malgré tout très vite écarté du soin donc de cette profession de soignant. Peut-être très incompatible justement aussi avec la profession de médecin, dans la mesure où un psychanalyste a tout sauf le complexe du sauveur. Alors, donc des années années après la mort de Sigmund Freud, la psychanalyse a bien bougé. Elle a bougé, moi, à mon sens, grâce à deux professions, justement. Grâce à la médecine, parce qu'il faut le souligner, notamment grâce à l'homéopathie. C'est-à-dire des gens qui essaient aussi un petit peu de contrecarrer des dérives, notamment mises en place pour des raisons mercantiles, notamment par de gros laboratoires, avec aussi maintenant cette habitude qui devient un petit peu pénible, où en fait il y a comme ça, des choses qui sont lancées, où l'être humain est utilisé de par ses somatisations, et les constats d'échec, j'ai envie de dire par décès interposé, arrivent trop a posteriori, parce que vous le savez, maintenant on lance des produits sur le marché, et contrairement à ce qu'on veut bien dire, bien souvent les constats arrivent une génération plus tard. Alors, il est certain que la psychanalyse aussi a trouvé sa place, et il y a une très grande vigilance aussi chez l'être humain en règle générale, maintenant chez le futur consultant ou chez le futur patient, qui en général a une approche de la règle somatique qui devient beaucoup plus prudente. On voit que les gens quand même, bon, il y a toujours des gens qui se précipitent vers une pharmacopée pour des raisons d'ailleurs névrotiques, mais on voit que les gens sont devenus beaucoup plus prudents, peut-être justement les manifestations comme celle du salon Sésame le démontrent. On se rend compte aussi, comme l'a dit Freud, qu'on peut poser nos principes de guérison nous-mêmes. Alors maintenant, il est bien évident que si je me fracture la jambe, je vais avoir recours à la médecine, mais la médecine doit rester, à mon sens, ça n'engage que moi, je ne suis pas le seul à le penser, mais doit rester une médecine curative. Tant que certains médecins n'accepteront pas que la psychanalyse est préventive, eh bien, nous n'avancerons pas dans le sens d'une complémentarité. Certes, il y a beaucoup, beaucoup de médecins qui, encore une fois, actuellement, nous soutiennent, mais il faut quand même donc se référer aux travaux de Freud. Pourquoi ? Puisque Freud s'est rendu compte en fait qu'il y avait une vie inconsciente, c'est-à-dire très indépendante de nos comportements conscients, donc fatalement les leviers de commande se situaient ailleurs. Alors je dis avant, je fais un lapsus, dans la mesure où l'inconscient s'est effectivement mis en place avant le conscient. Et d'ailleurs, on ne parle pas de maladie somatico-psychique, mais de maladies psychosomatiques, ce qui veut bien démontrer et montrer que les choses se mettent en place de façon négative avant qu'elles n'apparaissent sur des formes qui sont déjà des formes résistantes, donc c'est-à-dire tout ce qui appartient à la maladie. Alors, je vous ai fait un tour d'horizon très rapide là, de la présentation de ce qu'est pour moi la psychanalyse, donc quelque chose d'extrêmement positif. Je pourrais rajouter, j'insiste d'ailleurs depuis quelque temps là-dessus, puisque la question m'avait été posée, on me demandait pourquoi j'étais positive dans mon discours, et c'est vrai que j'oubliais peut-être de le dire, et là je vais le rappeler, la psychanalyse s'inscrit dans la lignée des sciences dites positives. Il y a deux choses en analyse, il y a cela effectivement, c'est-à-dire lorsqu'un patient vient chez nous, a priori, ces pulsions de mort le gênent, nous sommes soumis toujours en ambivalence en tant qu'être humain, pulsion de mort, pulsion de vie. Lorsque nous allons pas bien, même s'il s'agit d'une simple grippe, eh bien, ça veut dire que la pulsion de mort cherche à gagner du terrain. Donc, un analyste va, lui, faire en sorte, au travers de sa pratique, et si le patient, bien sûr, est prêt à accueillir aussi cette pratique, peut-être qu'on sera amené justement à en débattre, eh bien, va faire en sorte que la pulsion de vie, donc appelé Eros par Freud, joli clin d'œil bien sûr, symbolique, eh bien, soit plus importante que la pulsion de mort. D'autre part, et c'est peut-être là la grande difficulté, c'est que la psychanalyse traite de processus dits d'abstraction. C'est vrai qu'on est très loin des sphères concrètes, d'où, encore une fois, l'auto-analyse et son intérêt. Nous avons tous des signes avant-coureurs d'une problématique, qu'elle soit bien sûr somatique, qu'elle soit professionnelle ou affective. En fait, l'analyse fait qu'on devient quand même vigilant, non pas du tout nombriliste, on verra pourquoi d'ailleurs, mais vigilant malgré tout à des réactions donc plus ou moins positives ou plus ou moins négatives dans nos comportements quotidiens. Et encore une fois, la psychanalyse, c'est pas du tout une démarche égoïste dans la mesure où si je vais bien, en général, je ne fais pas de mal. Alors, à ce stade, si vous avez des questions à poser, je préfère, sinon je continue. mais ça ne répondra peut-être pas fatalement à vos attentes. Alors, la première question est toujours difficile à poser, mais c'est dommage de ne pas la poser. Elle en amène beaucoup d'autres intéressantes. On va vous passer un micro.
Je voudrais une précision.
Oui, on n'entend pas très bien, effectivement.
Oui. Vous avez dit que la psychanalyse faisait partie des...
Excusez-nous parce qu'il ne marche pas, vous avez raison.
Oui. Ça marche?
Oui. Il faut peut-être l'approcher oui. Un petit peu près.
Vous avez dit que la psychanalyse faisait partie des sciences positives. Quelles sont les sciences positives, d'après vous? Non, vous pensez à quoi?
Ne serait-ce que peut-être la pensée positive, c'est-à-dire la méthode Coué. Bon, moi, j'ai pas une expérience particulière de terrain, mais effectivement, bon, j'aime pas non plus le cliché, parce qu'il peut toucher des affects chez certains, c'est le coup de la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine. C'est-à-dire que si on se lève le matin en attendant la tuile qui va nous tomber sur le nez, ben, on va la recevoir. Alors, c'est vrai que lorsqu'on se lève le matin, souvent, on n'est pas bien, parce que, excusez-moi, on a aussi eu pas mal de problématiques la veille ou les jours qui ont précédé. On peut avoir de gros soucis personnels aussi. Eh bien, c'est vrai qu'on va toujours avoir donc cette pulsion de mort appelée Thanatos, même si Freud ne s'est pas gargarisé de ce terme d'ailleurs, bien qui va venir nous enquiquiner dès l'instant où on se réveille. Eh bien, il faut essayer de la chasser, se dire, bon d'accord, eh bien, dans ce miroir très négatif, il va falloir aller chercher ce qui est positif. Je ne sais pas si je n'ai pas fait un lapsus révélateur d'ailleurs, hein. Compte tenu de l'analité. Alors, c'est en fait facile et on se demande pourquoi on est aussi masochique dans nos comportements. Dans la mesure où nous sommes quand même bipolarité, nous sommes plus et moins. Et malgré tout, on a toujours cette propension à aller se faire du mal. Alors, c'est vrai, mais c'est bien parce que vous permettez aussi de souligner qu'il y a donc eu des courants positivistes, même si le terme est discutable, hein, mais on ne va pas rentrer là non plus dans un débat philosophique, mais il y a eu effectivement des courants donc positifs qui ont aussi permis à la psychanalyse d'exister. D'ailleurs, sur le parcours de Freud, notamment en tant que chercheur, il a aussi fait avancer les choses, car il s'est rendu compte à une certaine période de sa vie qu'il était très parano. Alors, il voyait le mal partout, il avait l'impression qu'il était rejeté, exclu, il avait pas mal de conflits, et en fait, il vivait un isolement jusqu'au jour où il s'est dit, ben, c'est peut-être à moi de voir aussi les choses d'une façon tout à fait différente, et c'est là où véritablement il a avancé dans ses travaux. De toute façon, on le sait, je ferai un mauvais jeu de mots, mais c'est le sésame ouvre-toi. Hein, on sait très bien que pour bloquer une porte, il n'y a rien de tel. Hein. On commence à se dire, je ne peux pas, ou je ne vais pas aller là parce que cet autre m'enquiquine, ou je n'ai pas assez d'argent pour faire ceci, etc., etc. On peut parler de Psychanalyse Magazine dans ce sens-là. J'avais été très, très titillée par quelqu'un de fort désagréable dans la presse qui expliquait que les instituts de psychanalyse privés, je vais être très vulgaire, je vais rester sur l'analité, c'était de la merde. Et un jour, dans mon entourage, j'ai dit, ah ben, il y a monsieur Intel qui explique que nos instituts ne sont pas sérieux, est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on mette en place une revue. Sans aucun argent, hein, y a des gens qui nous ont fait confiance, hein, ça a été nos deniers personnels, hein, c'est toujours d'ailleurs nos deniers personnels, et puis des gens, je pense par exemple à la société distribution de presse MLP, qu'il faut remercier, qui nous a fait confiance, parce que lorsqu'on va dans un kiosque, on a l'impression que c'est très facile d'acheter une revue, mais si vous saviez comme il est compliqué de se retrouver en kiosque, il faut à la fois des partenaires extrêmement intelligents, bien sûr très ouvert, mais il faut aussi que nous soyons très prudents quant à notre position. Alors en ce qui me concerne, donc en tant que directrice de publication de cette revue, j'essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de choses dérangeantes ou négatives, bien que je ne sois pas du tout un tempérament tiède. Ça répond à ce que vous vouliez savoir. Vous êtes frustrée? Oui. J'ai pas. En ce qui me concerne,
je croyais que vous pensiez à quelque chose de très, très défini. Quand vous parliez de science, que vous puissiez mettre une étiquette sur ce mot-là.
Non, pas du tout. D'abord, peut-être que ça ne va pas avec mon caractère. Puis, je n'ai pas d'expérience dans ce sens-là. Par contre, je connais la pensée positive. À mon avis, bon, ce n'est pas le débat là, elle a aussi ses limites, c'est-à-dire par exemple la pensée positive est plus envisagée en tant que psychothérapie. C'est-à-dire que justement tout ce qui touche à cette méthode-là, en fait, nous fait prendre conscience, encore une fois, c'est ce que je viens de dire, qu'au lieu d'envisager la vie ou tout partenaire, encore une fois, qu'il soit social ou affectif, de façon négative, eh bien, on peut peut-être aussi essayer de le voir autrement. Non pas du tout que je veuille vous évangéliser hein, dans mon discours, hein, je ne veux pas du tout mélanger la religion, ce n'est pas du tout mon propos hein, ni mon tempérament, mais je pense à une de mes élèves un jour qui est une jeune femme qui enseigne le catéchisme et plusieurs d'entre nous étions intéressés par le fameux tendre l'autre joue. Parce que, en ce qui me concerne, je n'ai pas cette sagesse-là, ou j'en ai pas assez, bien que j'essaie un peu de progresser. Et en fait, elle nous a donné une explication très intéressante, qui est une explication, elle nous disait que lorsque le Christ, donc symboliquement, a voulu dire cela, eh bien, ce qu'il essayait d'induire, c'est que lorsque quelqu'un nous donne une gifle, le fait de tendre l'autre joue, c'est peut-être lui faire prendre conscience qu'on est peut-être autrement aussi que ce qu'on a pu le croire. Ça va à peu près ce que je vous ai dit là. Je me dépatouille avec des tout petits moyens parce que c'est vrai que je n'ai aucune connaissance. Par contre, il y a certainement des gens parmi vous beaucoup plus doués. Si vous avez quelque chose à dire, par contre, si vous avez une connaissance, ça c'est intéressant même pour le public. Hein, je n'ai pas l'intention de monopoliser l'énergie. Vous faisiez-vous allusion à quelque chose de précis ou pas? Non. D'accord. D'accord. Y a-t-il une autre question ?
Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous expliquer les limites de votre science ? Où elle peut commencer et où elle peut se terminer ?
Alors, les limites, donc, de la psychanalyse, en fait. Oui, ça, c'est une grande question aussi, hein. Alors, oui, tout le monde peut relever de la psychanalyse, mais tout le monde n'est pas prêt, justement, à suivre une analyse. Pourquoi ? Parce que l'analyse a aujourd'hui la forme de travail sur soi la plus approfondie. Il est certain que lorsqu'on commence une analyse, eh bien, on va aller à la rencontre de ce que l'on est véritablement. Et curieusement, d'où l'on vient ? Mais d'où l'on vient, non pas déformé par la défense, c'est-à-dire qu'on va entendre par mécanisme de défense tout ce qui nous a fait mal et que l'on a transformé, ce qu'on appelle des formations de compromis, tout ce qui a été véhiculé aussi par une famille, quelle qu'elle soit, qu'elle aussi a été soumise à ce qu'on appelle l'inavouable, par exemple à un sentiment qui est très réducteur, comme la honte, après tout, on a à avoir honte de quoi, de qui, par rapport à quoi, par rapport à qui, quand on sait par exemple qu'on peut avoir sur les épaules. Donc, c'est l'exemple dont je parlais tout à l'heure, à titre personnel, des histoires qui ne sont pas la mienne, qui ne sont pas la nôtre, mais qui non seulement remontent à nos parents, mais aussi à nos arrière-grands-parents. Et parfois, on peut retrouver, par exemple, sur des bilans extrêmement poussés, notamment linguistiques, des affects qui sont transmis donc par somatisation interposée. La somatisation, ce n'est pas uniquement la maladie, hein, c'est-à-dire sont toutes nos conduites d'échec, des fois depuis 500 ans ou 1000 ans. C'est quelque chose d'effrayant. Tout cela subissant, bien sûr, donc encore une fois, des déformations donc par la défense. Alors, il faut quand même être prêt. Moi, je ne veux pas dire qu'il faille un certain courage, parce que les analystes, ce sont des gens respectueux de la maturité ou de l'immaturité pulsionnelle du patient à l'instant T. Mais c'est vrai que tout le monde ne peut pas s'engager en première intention en analyse. Ce que j'ai constaté, c'est que souvent, les individus qui ont l'habitude, pour des raisons X, Y ou Z, qui peuvent être liées aussi, par exemple, aux professionnels, je pense par exemple à des gens qui ont fait de la géométrie dans l'espace, ou à des architectes, ou à des gens qui ont la foi, c'est vrai que pour nous, c'est relativement pratique, parce que déjà, ces gens-là arrivent à comprendre que l'on va travailler sur une énergie qui est abstraite. Donc, encore une fois, vous allez peut-être permettre qu'on parle de l'entretien préliminaire. Tout va se jouer en entretien préliminaire. Alors, actuellement, la population de nos analysants vient de deux horizons, de trois horizons, on va dire différents, puisque tout à l'heure, ça me permet de rappeler que je n'ai pas remercié les enseignants qui apportent beaucoup à la psychanalyse depuis plusieurs décennies. Donc, il y a les médecins qui nous envoient, bien sûr, des patients. Alors, là, c'est pareil, il y a deux catégories de médecins. Les médecins qui, parfois, en ont marre, par exemple, parce qu'ils ont un patient qui est hypochondriaque ou parce qu'ils ont un patient dépressif, mélancolique, etc. Alors, eux sont soumis aussi à des règles draconiennes actuellement. On ne va pas non plus rentrer dans des polémiques politiques, mais ils en ont un peu marre d'avoir des actes qui cotent peu. Or, si véritablement, on veut faire un travail correct sur un plan relationnel, vous savez, à moins d'une heure en début de séance, ça paraît difficile. Donc, on a par contre, de fait, une clientèle comme ça qui nous est envoyée de façon un petit peu brouillon et qui ne relève pas particulièrement de la psychanalyse. Soit d'ailleurs parce que à ce moment-là, le patient a des ressources en lui. Je le vois en entretien préliminaire, je bilante en entretien préliminaire, et même sur des histoires lourdes, je dis au patient, écoutez, vous faites ce que vous voulez, mais moi j'estime que vous pouvez vous débrouiller seul, vous n'avez pas besoin de faire une analyse. Ou alors, si vous décidez de faire ce chemin, qui est quand même un chemin qui est long, il faut savoir que vous allez effectivement être amené à rentrer dans des sphères où, et c'est ce que Jung appelait la grande psychothérapie, vous allez être amené à mettre en place des passages à l'acte extrêmement positifs, à type de réalisation. Il faut savoir aussi que c'est une vie qui va être modifiée. Il ne faut pas rêver, après une psychanalyse, on ne passe pas son temps sur un transat, même si ce n'est pas sa profession, hein, les doigts de pied en éventail. Pourquoi ? Parce que la psychanalyse va ouvrir de plus en plus à une créativité qui va être en adéquation avec ce que l'on est. Alors, effectivement, donc, l'entretien préliminaire nous permet de voir si déjà le patient relève de l'analyse ou est prêt. Alors, je le dis souvent, et je le dis en particulier à mes élèves, là, je mets un bémol, et c'est aussi, ça n'engage que moi, bien sûr. Jacques Lacan a dit qu'on pouvait prendre les psychotiques en analyse. En ce qui me concerne, je ne le fais pas. Donc, les psychotiques, entendons par psychotiques, des gens donc, qui ont des discours quand même relativement incohérents ou qui ont des pathologies extrêmement lourdes. Il y a toujours des exceptions pour confirmer la règle. Mais en ce qui me concerne, si le discours est très incohérent, et très souvent, ça va aussi avec des profils labiles, avec des gens très instables qui ont beaucoup de mal à accepter la règle analytique dont on va parler, eh bien, c'est vrai que je pense qu'ils relèvent, eux, par contre, de prise en charge plutôt psychiatrique. Mais là, ce n'est pas non plus péjoratif. Vous avez des psychiatres qui font un excellent travail. Ce n'est pas non plus la caricature du psychiatre qui fait allonger les gens, qui les... c'est un terme provençal que je vais utiliser, là, parce que je trouve qu'il est très parlant. Hein, il métaphorise ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il ensuque, en fait, les patients. Non, il y a des psychiatres qui font un excellent travail aussi. Donc, effectivement, là, par contre, c'est quand même le psychanalyste qui va, en somme... accepter ou diriger le patient autrement. Donc là aussi, il faut qu'il y ait un partenariat de qualité avec le médecin ou avec l'enseignant. Alors, on a cette problématique actuellement en pédopsychanalyse, donc avec la prise en charge des enfants. Alors, les parents, là aussi, peut-être pour des raisons sociologiques, peu importe, démissionnent complètement. Alors, ils vont d'abord s'adresser au premier sauveur. Le premier sauveur, c'est l'enseignant. Puis, les enseignants ne se laissent pas faire. Alors, il y a des équipes, bien sûr, dans le monde enseignant, donc dans l'éducation nationale, qui effectivement est là pour essayer de voir un petit peu ce qui se passe, notamment aussi les psychologues scolaires. J'ai pas, le terme n'existe plus, ça existe toujours, si, bon, les psychologues scolaires, etc., puis autres catégories socio-professionnelles, là aussi, que je ne domine pas du tout. Et puis, ben, souvent, ces professionnels-là aussi se rendent compte qu'ils ne peuvent pas aller plus loin. Donc, on a en pédopsychanalyse aussi beaucoup d'enfants qui nous sont envoyés par ce truchement-là. Alors, là aussi, ça dépend de l'intermédiaire, parce que vous pouvez aussi avoir des professionnels qui ne font pas leur travail et qui pourraient éviter aussi des prises en charge difficiles, parce que là, il y a un réel problème d'éthique, dans la mesure où vous savez qu'une psychanalyse doit être payée par le patient. Or, l'enfant va être soumis, lui, aux parents payeurs. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On lui fait amener un dessin selon son âge ou une petite pièce de monnaie, donc de façon très symbolique. Il faut qu'il règle, s'il veut que ses problèmes se règlent. Mais les parents vont bien sûr assumer la différence. Le problème qui se passe dans les prises en charge pédopsychanalytiques, c'est qu'elles sont soumises à la même règle que ce qui se passe au niveau des adultes, à savoir que tout individu a découvert d'abord son parent comme bon objet, puis mauvais objet. Donc c'est ce qu'on appelle bien sûr le transfert positif et le transfert négatif. Alors le petit homme, quand il vient chez nous, ben, au départ, il va effectivement démarrer aussi par une histoire d'amour, donc ce fameux transfert positif. Pourquoi ? Puisque la règle analytique fait que les parents fantasmatiques, c'est-à-dire ces parents tels que nous les avons compris ou pas compris dans la période de 0 à 6 ans qui a été fondamentale et plus ou moins structurante pour notre vie d'adulte, eh bien, l'analyse de par la règle va faire qu'il va y avoir l'établissement donc, du parent transférentiel. Et à ce moment-là, donc, au tout début de la cure, le petit enfant va rentrer chez lui en disant « la dame, elle est géniale » ou « le monsieur, il est génial ». Et petit à petit, les parents vont se sentir frustrés, exclus. Donc, ils nous les retirent de façon prématurée. Ça, c'est un peu dommage. Très souvent, Françoise Zolto en a beaucoup parlé. Alors, d'autant qu'il y a un paradoxe, c'est très souvent, les parents, donc surtout ceux qui démissionnent, cassent un peu les pieds à l'enfant, lui disent « mais tu vas aller voir Monsieur Dupont, il est psychanalyste, tu vas voir, il est génial. Non, je ne veux pas y aller, non, je n'irai pas. » Alors, on voit le gamin arriver, là, qui est traîné par le parent. Et puis, quand les choses commencent à bien se passer, les parents nous disent qu'ils n'ont pas d'argent, en général, c'est ce qui se passe. Et l'enfant ne comprend plus rien, puisqu'en fait, on met dans sa vie inconsciente une rupture. Et là, je peux vous assurer qu'en guidance de cure, ce n'est vraiment pas le moment. Alors, effectivement, là, j'essaie de vous parler bon, des limites de façon simpliste, mais c'est à nous à être responsables. Mais là, on rentre dans des pléonasmes. Il faut être honnête. Mais je ne peux pas croire qu'il y ait un psychanalyste malhonnête. Alors, il n'est pas psychanalyste. Il n'a vraiment rien compris. Pourquoi peut-être aussi, ce que je pourrais rajouter, c'est que je trouve que nos patients nous font une confiance extraordinaire. Ils nous confient la partie la plus subtile de l'individu, c'est-à-dire l'être. Pour d'autres, ce sera l'âme. Bien, moi, je peux vous assurer que je n'ai pas envie de trahir mes patients. Hein. C'est moi qui vous le dis, parce que j'ai toujours, j'aime pas tellement le terme, mais j'ai toujours beaucoup d'émotions quand je vois la construction d'un travail analytique. Et si toutefois je suis maladroite, c'est certainement pas pour être malhonnête, ça, par contre. Voilà, donc je pense qu'encore une fois, dans la profession, il y a beaucoup de psychanalystes de grande qualité, ça aussi. Malheureusement, vous le savez, vous avez vu à la télévision ce qui se passe, chaque fois qu'il y a un pseudo-psy qui est à la télévision, ça devient une caricature et on a une profession qui est complètement abîmée. Ça, on n'y peut rien. Alors, vous voyez, on travaille comme ça, nous, modestement, comme des artisans, de façon très laborieuse. Hein. Ça répond aussi à ce que vous vouliez savoir. Il y a d'autres questions ? Oui, Philippe, excusez-moi.
Vous avez un petit peu répondu à ma question, mais je voudrais savoir votre sentiment sur la discipline de généalogie qui se développe beaucoup aujourd'hui. Et puis, une autre question, est-ce que au fil de quelques années de psychanalyse, vous avez remarqué que les effets peuvent être finalement plus négatifs que positifs, c'est-à-dire que la personne assumerait peut-être mal cette psychanalyse, est-ce que ça arrive?
Non, on va prendre les deux questions. Oui. Voilà. Alors, effectivement, donc la question de la psychogénéalogie, c'est vrai qu'il y a un réel problème. Là, je vais peut-être me faire des ennemis dans la salle, parce que peut-être que beaucoup d'entre vous connaissez Madame Ancelin. Alors, on a un problème en tant que psychanalyste avec elle, puisqu'elle explique qu'elle a créé la psychogénéalogie. Il faut savoir que ce sont des travaux qui sont très anciens sur les névroses familiales et les névroses de destinée à type de compulsion de répétition. C'est-à-dire que Freud s'est rendu compte, notamment, mais il y avait eu d'autres personnes, il y a eu René Laforgue, qui a été le psychanalyste de Françoise Dolto aussi, s'est rendu compte effectivement qu'il y avait, c'est bien parce que ça va permettre d'entrer aussi un peu dans la théorie, qu'il y avait dans les familles, par exemple, des décès d'enfants qui survenaient à des périodes identiques. Hein, on les retrouve de génération en génération, des pathologies effectivement qui se répètent. Donc c'est ce que Freud a appelé l'identification. Donc la psychogénéalogie, c'est bien, elle a une place, puisque par contre Madame Ancelin a la grande qualité d'avoir su se médiatiser, peut-être plus justement que les psychanalystes en règle générale, mais on ne peut pas non plus néantiser du coup les travaux qui ont été faits quand même par les maîtres avant. Et puis là, il y a une véritable paternité qui lui échappe en totalité. Alors actuellement, on a choisi, je suis donc didacticienne analytique, on choisit dans nos programmes de ne plus appeler ça les névroses de destinée, les névroses familiales, mais effectivement, on est obligé d'appeler ça la psychogénéalogie. C'est très intéressant, effectivement, de pouvoir constater sur sa généalogie eh bien, ce qui se répète. Et ça nous amène justement peut-être là à la force de la psychanalyse, c'est-à-dire que si on présente les choses, ces fatalités en termes de génétique, eh bien, il y a quelque chose qui, pour moi, tombe comme un couperet. Hein, voilà. C'est génétique, alors c'est comme ça, et puis on n'y peut rien. Alors, là aussi, je me dis toujours, mais que Freud n'ait pas été entendu, c'est fantastique l'identification, parce que c'est le fantasme. C'est-à-dire que l'enfant va d'abord découvrir sa mère, puis son père, ce que je disais tout à l'heure, et il va prendre, d'ailleurs par peur d'être rejeté souvent, par peur de ne pas coller au moule, il va prendre des particularités, donc filiales. Alors, ça peut être effectivement, si la mère a fait des fausses couches, eh bien, dans un héritage transgénérationnel, on va pouvoir retrouver une jeune femme qui va être stérile. Si les parents ont perdu un enfant, ou des grands-parents, ou des arrière-grands-parents, eh bien, plutôt que de prendre ce risque-là, eh bien, fantasmatiquement, je vais verrouiller le processus et je n'aurai pas d'enfant. Si une profession a été assimilée à une trahison affective, eh bien, je ne vais surtout pas me diriger vers cette profession, alors que j'étais peut-être fait ou faite pour cela. Donc, c'est vrai, à la fois, bon, ce sont des travaux extrêmement importants, mais malheureusement, actuellement, il y a une vulgarisation. Et il y a surtout ce qu'on constate depuis quelques années, il y a une confusion entre psychogénéalogie et rebirth. Alors, on voit des patients qui arrivent, moi je pense à une patiente que j'ai eue, ensuite comme élève, elle arrivait de chez une psychogénéalogiste qui lui avait dit, oh ben voyez, cette dame avait un problème d'alcool. Et elle lui avait dit, ben voilà, vous buvez, parce que vous avez eu un aïeul qui a été assassin. Alors, elle est arrivée chez moi avec ça, elle me dit, ouais, d'accord, maintenant, j'en fais quoi de cette histoire-là? Alors, vous voyez, là aussi, ça rejoint la question que posait monsieur. Ben, en fait, c'est à nous à être responsables, et malgré tout, quand même, non pas, encore une fois, pour faire de la relation d'aide ridicule, hein, les gens sont tout à fait autonomes et grands pour se gérer, mais on est quand même là aussi un peu pour les protéger. Hein. Donc là, ça touche aussi ce qu'on appelle l'interprétation en analyse. Vous voyez, ça nous fait embrayer sur autre chose. Je prendrai aussi à votre question, mais ça va peut-être l'assimiler. Très souvent, quand les gens viennent chez moi, ils me disent, vous voyez, ils me disent, vous parlez. Ben oui, je leur dis, mais je suis désolée, mais je ne suis pas sourde, je ne suis pas muette. Hein. Donc, il y a aussi cette caricature du divan. Alors, les gens viennent chez nous, ils se mettent sur un divan, et puis ils racontent ce qu'ils veulent, n'importe comment, et puis il y a un psy qui les écoute et qui roupille de préférence. Non, ce n'est pas ça du tout. C'est-à-dire, nous sommes soumis à une méthode donc linguistique. Ça fait tousser Sylvie. Je suis sympa, là. Mais Sylvie est élève analyste. Vous voyez, elle vient me soutenir. Et un peu comme elle m'accueille. Oui, donc, en fait, il y a une règle, bien sûr. Il y a une méthode. Et c'est ce qui fait que notre patient va progresser. Donc, ça répond ou ça ne répond pas à votre question. En fait, ce que vous disiez, c'est est-ce qu'en cours d'analyse, vous avez pu constater que certains patients venaient rechercher de quoi s'abîmer encore plus. C'est peut-être un peu ce que vous vouliez dire ou induire. Ou est-ce que ça peut arriver?
Oui, mais surtout, est-ce que les révélations, la prise de conscience peut être assez lourde et ne pas le supporter?
Oui, alors, il y a deux choses, mais c'est lié, en fait. Alors, je peux prendre l'exemple aussi qui m'est arrivé il y a quelques jours. J'avais un couple en analyse, pas du tout à type de thérapie familiale. Hein. L'épouse venait d'un côté et l'époux de l'autre. J'avais d'abord eu l'épouse en analyse. Et puis, un couple tout à fait ouvert à tout cela, un couple s'entendant bien, mais l'épouse se plaignait que son mari était un petit peu velléitaire et elle trouvait qu'il avait une ambition médiocre. Pourtant, moi, je trouvais que c'était un petit peu dur comme jugement, dans la mesure où il a quand même des affaires qui avancent bien. Mais elle avait été mariée en première noce avec un médecin, donc on sentait qu'elle était toujours à la recherche aussi du père, effectivement. Et au mois de janvier, Chacun de leur côté ont mis en place un acte manqué. Donc, je pense aussi que beaucoup d'entre vous savent ce que c'est. Ça fait partie de la règle analytique, c'est-à-dire qu'en analyse, tout rendez-vous qui est pris est dû. Comme l'a dit Lacan, un acte manqué est un discours réussi. Ça veut dire effectivement, je ne peux pas, je n'ai pas l'énergie de vous affronter aujourd'hui. Et puis, ça veut dire aussi, je vais vous punir. Hein, puisque là, on entre dans des sphères de transfert négatif. Donc, après, les fameux transferts positifs dont j'ai parlé tout à l'heure. Et c'était la première fois que ça m'arrivait, puisque là aussi, malgré les imbécilités qu'on peut entendre, on ne doit pas prendre les couples en analyse, c'est complètement idiot, puisque chaque individu est unique, donc chaque perception est unique, bien sûr. Tous les deux, au mois de janvier, une semaine d'intervalle, on met en place un acte manqué. Et un jour, je vais en salle d'attente. Bon, je me suis dit, ils viendront plus. Hein, ils ne viennent plus. Ils avaient pris une succession de rendez-vous à l'avance, ce qui ne se fait pas. Allez savoir pourquoi j'ai fait ça. J'ai donné, c'est la première fois que je faisais ça, j'ai redonné tous les rendez-vous qu'ils avaient pris à l'avance. Ils avaient pris au mois de juin parce qu'ils ont une vie un peu compliquée. Donc. Un jour, je vais chercher un patient en salle d'attente et je vois cette patiente qui était là. Oula, elle n'a pas été aimable. Je n'ai pas dit bonjour. Alors, dans ce cas-là, on est déjà dans le transfert. Hein. Je demande au patient s'il accepte de m'accorder quelques minutes avec cette autre patiente. J'avais dans mon bureau, je lui dis, mais attendez, alors, mais c'est quoi? Vous prenez vos rendez-vous quand ça vous arrange, vous ne venez pas, etc. Elle me dit, mais écoutez, mon mari s'est rendu compte a posteriori qu'il avait manqué son rendez-vous, mais moi, pas du tout, une femme très honnête, etc. Et là, j'ai pris la décision d'arrêter leur cure avec moi. J'ai donc passé le relais à deux autres analystes. Par contre, on a mis en place un processus de séparation de couple. Pourquoi? Parce que j'ai pris conscience à ce moment-là, compte tenu de ce que tous les deux m'avaient raconté sur un fait de leur vie familiale récent, à savoir que ma patiente avait eu une fille de sa première union avec le médecin et ce médecin ne voulant pas du tout prendre en charge la fille maintenant au niveau des études sur un plan pécuniaire et à Paris, etc. Ça s'était très très mal passé. Et en fait, je me suis dit, mais on est en train de reschématiser dans ce couple. Je lui ai expliqué, une femme intelligente, je lui ai dit, écoutez, là, en ce qui me concerne, j'arrête votre cure, je ne veux pas que la psychanalyse soit utilisée pour à nouveau reschématiser un divorce. Vous êtes venu chez moi, vous alliez très bien, votre couple s'entendait très bien, il s'entend toujours bien, cette histoire d'ambition semble se régler, et j'ai donc donné deux autres adresses. Alors, je peux vous donner la suite, j'ai donné l'adresse de deux élèves analystes que j'ai formés, et aujourd'hui, les coups de fil n'ont pas été passés. Mais on a nos limites, mais ce n'est pas fatalement péjoratif, peut-être que ce couple va maintenant pouvoir complètement évolué justement parce que cette chose-là a été mise à plat. Voilà, donc on revient toujours à la même chose, c'est dans un souci de rigueur et d'honnêteté qui va de part et d'autre, parce que le patient accepte la règle, je la rappelle rapidement, très difficile, le patient arrive en séance, il paie sa séance en espèces, l'argent apparent, toute la séance avec l'appoint, puisqu'on ne doit rien rendre au patient, bien sûr, sinon ça le castrerait, ça le dénarcissiserait, il n'a pas besoin de cela. Le patient ne doit rien demander à l'analyste, ni aller aux toilettes, ni à boire, ni à téléphoner, aucun service. Mais encore une fois, c'est pro-analysant, hein, non pas pro-analyste. Donc il est bien évident que si nos patients acceptent cette règle, qui est quand même pas évidente, hein, parce que quand on vous la balance comme ça en entretien préliminaire, même si les gens sont un peu prévenus, ce n'est pas très agréable. Alors, la moindre des choses, c'est que nous aussi, nous ayons quand même une règle, hein, qui est celle de l'honnêteté. C'est la moindre des choses, à mon sens. Ça répond à ce que vous vouliez savoir, en gros, oui?
Je précise qu'il reste 5 minutes.
D'accord.
Moi, j'ai un petit problème de jalousie pour ma fille.
Pardon, un problème de jalousie
entre frère et sœur, enfin demi-frère et demi-sœur.
Alors, c'est votre fille, c'est une fille, donc qui est une fille aînée, qui est issue d'une première union.
Oui.
Oui. Et donc, vous avez eu ensuite un garçon.
10 ans après.
Et votre fille, donc, est jalouse.
Plus maintenant qu'elle est adulte.
Oui. Alors, oui, c'est pas tellement un facteur âge, c'est qu'en fait, y a une censure qu'elle lève et qu'elle gère peut-être mieux. C'est-à-dire que c'est vrai qu'en vieillissant, on apprend quand même à parler. Hein, la parano, en général, cède un peu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, elle a été d'abord la fille qui représentait la première union, donc union où elle a aimé sa mère, elle a aimé son père. ce qu'on appelle donc les triangulations oedipiennes, c'est-à-dire que toute sa petite vie fantasmatique était confortable à ce moment-là, bien sûr, même s'il y a aussi des désaccords, et puis divorce, et puis alors là, le comble, c'est qu'en plus de ça, vient le rival, puisque tout petit garçon est quand même raide amoureux de la mère. Donc ce qui veut dire, c'est quand même une fille qui vous aime beaucoup, peut-être un peu trop, et donc elle rentre davantage encore, certainement, en rivalité avec son frère pour ces raisons-là.
Elle n'a pas connu son père.
Elle n'a pas connu son père. Oui, donc vous formiez un couple complet. Alors, ce qu'on appelle en analyse l'Œdipe complet, puisque tout petit garçon et toute petite fille donc vu une histoire d'amour avec sa mère, avec son père. Hein, c'est-à-dire qu'il y a, ce n'est pas péjoratif et ça n'a pas du tout valeur de jugement, c'est qu'on fonctionne comme ça aussi. Hein, c'est-à-dire qu'une petite fille va être amoureuse de sa mère, donc il y a un éclairage effectivement homosexuel, le petit garçon de son père, et vous, elle a tout cristallisé, elle a tout synthétisé sur vous, ce qui peut donner effectivement des réactions de jalousie extrêmement fortes. Ce qui veut dire qu'elle doit avoir des réactions des fois un petit peu parano, donc il faut la rassurer constamment. Ça répond à ce que vous vouliez savoir ?
Oui, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, vous prenez donc des couples en analyse, si j'ai bien compris.
Oui. Hein,
voilà. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que le double discours, d'une part, détruit la neutralité que l'analyste doit avoir en analyse, et d'autre part, est-ce que vous n'avez pas l'impression que ça recrée une situation complètement triangulaire, en fait ?
Alors, ça aussi, c'est intéressant comme question. Vous savez que tout psychanalyste est analysé. C'est-à-dire que nous sommes en neutralité, dite bienveillante par Freud, avec un terme actuellement plus usité, qui est plus juste, moi que je préfère, qui est l'empathie. C'est-à-dire ni antipathie, ni sympathie pour son patient. Donc, effectivement, un analyste va rester incontrôlé et incontrôlable. Il va le rester d'autant plus que, je ne l'ai pas dit jusque-là, la psychanalyse, c'est l'écoute de l'inconscient. C'est-à-dire, de par le langage, nous allons contre-transférer le patient au travers d'ambivalence. C'est-à-dire que nous allons travailler uniquement sur ce qu'on appelle le vrai self, donc sur le soi, sur le désir. Et il ne peut pas y avoir, de par cette méthode, de projection de la part de l'analyste. Donc, de facto, ça englobe votre deuxième question, à savoir qu'il ne peut pas y avoir de triangulation qui se remette en place, ou alors ça voudrait dire, et là on rentre aussi dans un autre débat, que le psychanalyste ne fait pas respecter la règle, c'est-à-dire ce sont les paiements par chèque, donc on ne fait pas d'analyse à ce moment-là, on n'est pas en analyse. Pour des raisons libidinales, Freud a demandé à ses patients de considérer l'argent comme de l'argent. Donc toute cette règle fait surajouter donc à la méthode spécifique psychanalytique qu'il ne peut pas y avoir projection de la part de l'analyste, ou alors c'est un analyste qui ne l'est pas. Or, on rentre aussi dans un autre débat, vous savez qu'il n'y a pas de diplôme d'État aujourd'hui, c'est pas demain la veille, tant mieux parce que la psychanalyse est trop jeune pour qu'on l'enferme encore. Et quand elle sera étatisée, elle ne présentera plus aucun intérêt pour les psychanalystes. Il y aura autre chose qui viendra se greffer là-dessus. Donc nous ne sommes pas partisans, hein, ou alors on n'est pas analyste, hein, on est charlatan.
Oui, je voulais savoir, pour appuyer la question précédente là, de Christelle, qu'est-ce que vous faites de la relation contre-transférentielle quand vous avez deux personnes, un couple en analyse ? Parce qu'il y a une interaction automatiquement par rapport... Bon, j'ai bien écouté ce que vous avez dit précédemment, mais il y a quand même quelque chose qui se joue dans l'histoire de chacun. Là.
Alors, moi,
il y a une histoire commune qui est très, très forte, et votre propre contre-transfert, puisqu'il existe, hein, il est indéniable. Je ne sais pas comment vous arrivez à gérer justement ce genre de choses, même sans faire de projection.
Il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. D'abord, il est très difficile d'expliquer ce que sont les études d'un élève analyste.
Oui.
C'est-à-dire qu'on travaille toutes les possibilités de contre-transfert libidinal qui existent en linguistique. Et c'est quelque chose d'immense. C'est-à-dire, lorsque l'on va contre-transférer, on ne prend pas n'importe quelle ambivalence langagière au hasard et par hasard. Ça, c'est déjà la première chose. Mais on rentre dans une méthode, dans une technique, Donc ensuite, en ce qui concerne le couple, moi ça me ramène à un film qui est très vieux, donc beaucoup d'entre vous ne le connaissent peut-être pas, La vie conjugale, qui avait été tournée en deux parties, donc avec Jacques Charrier et Marie-Josée Natte. Et c'était l'histoire de la dégradation d'un couple vu d'abord par la femme et ensuite par l'homme. Et c'est vrai que quand on voyait ce film, si on regardait premier degré, ben, on n'avait plus d'avis du tout. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, chaque individu est unique dans la mesure où d'abord il est lui, et ensuite il est pris dans une histoire qui est non seulement la sienne, mais qu'il a fantasmée comme telle. Donc lorsque nous faisons travailler nos analysants, c'est au travers de l'inné, même si le symbolique est là, mais c'est au travers de l'inné que nous les faisons travailler. Vous allez par exemple, la preuve en est, vous avez, mettons, 4 enfants. Eh bien, vos 4 enfants vont penser de vous, en tant que mère, des choses différentes. Alors vous imaginez dans un couple, même si les névroses s'attirent et se complètent, il est bien évident que si Mademoiselle Dupont rencontre Monsieur Durand, ce n'est pas par hasard, hein, on le sait très bien, mais en analyse, compte tenu de cette méthodologie spécifique qui est extrêmement complexe, hein, donc où tout se joue au niveau du contre-transfert, on écoute la plainte du patient, et lorsque l'on va rentrer en empathie, c'est-à-dire récupérer un terme ambivalent, qu'entend-on par ambivalent? C'est un terme qui a plusieurs sens. Eh bien, effectivement, de par notre analyse, de par la méthodologie spécifique linguistique, nous allons contre-transférer. Alors, vous faites allusion à quoi ensuite? À la sensibilité. Et là, je peux y répondre. Alors, de toute façon, je pense que tous les analystes seront d'accord. Il n'y a pas de hasard. On ne va pas chez un analyste par hasard. C'est-à-dire que si on prend rendez-vous, là aussi, chez Monsieur Dupont, eh bien, c'est que son histoire va parler à l'analysant quelque part. Hein. Il y a une espèce de connivence d'inconscient à inconscient, puisque tous les inconscients communiquent.
Oui, ceci dit, vous avez répondu, puisque finalement, l'analyse a ses limites, puisque vous avez quand même été, vous les avez envoyés quand même consulter deux analystes différents après.
Elle a ses limites. Ça dépend comment vous utilisez le mot limite.
Non, par rapport à si c'est...
La psychanalyse, c'est pas une recherche de vérité. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas le complexe du sauveur. Le terme limite, pour nous, est très positif, mm-hmm. hein, puisque vous savez qu'un individu qui n'a pas intégré les limites est un individu suicidaire. Nous, on travaille, enfin, en tant qu'analyste, on travaille dans un sens de complémentarité, c'est ce que j'ai essayé de transmettre depuis tout à l'heure. Mais c'est valable pour moi. Je vois arriver des gens chez moi qui ont des fois 7 ou 8 ans de recul analytique. Ils viennent chez moi, au bout de 3 séances, ils posent ce qu'on appelle un principe de guérison. Mm-hmm. Hein? Mais attendez, ce n'est pas grâce à moi. Hein? On est bien d'accord. Là, et Dieu sait si je respecte Jean-David Nasio, quand Nasio dit chaque analysant qui vient chez nous, même s'il a une antériorité analytique, redémarre une cure, je ne suis pas d'accord. Il y a tout le travail en amont qui a été fait par des gens consciencieux. On le voit aussi au niveau des psychothérapeutes, c'est la même chose, des psychothérapeutes qui se rendent compte qu'ils ne peuvent pas, ils n'ont pas allé au-delà d'un certain travail et qui passent le relais aux psychanalystes. Bon, mais moi, je ne vois pas ça en termes de limites. Je ne tire aucune gloriole d'un patient qui va poser un principe de guérison, d'abord jamais chez moi, parce que je sais que c'est lui qui a bossé, et moi, je suis payée pour ça, c'est déjà la première chose. Ensuite, si c'est un principe de guérison qui arrive après 3 séances, si j'étais le sauveur, ça se saurait, donc ce n'est pas le cas. Et puis, je trouve que l'analyse, ça se situe, ça se joue en d'autres termes. C'est ce que je disais tout à l'heure, pour moi, ça se joue en termes de confort, d'équilibre, de bonheur, de gens qui partent un petit peu mieux que ce qu'ils sont arrivés et qui donc vont faire un petit peu moins de mal dans la vie, dans leur existence. Mais c'est tout, c'est pas autre chose,
non,
l'analyse.
Non, mais j'adhère complètement
ça
à ce que vous avez
modeste
dit,
précédemment. Aujourd'hui.
Hein. La seule chose qui m'interpellait vraiment, c'est le fait de prendre, oui, effectivement, un couple en psychanalyse, voilà, les deux. Voilà, c'est la
je
ne
prends pas
chose
le couple ensemble. Ça peut arriver sur certaines séances. Je ne le prends pas ensemble. Mmh. Ils sont séparés, ils arrivent avec leur individualité, avec leur histoire unique parce qu'ils ont abordé une histoire transgénérationnelle au travers de leur immaturité.
D'accord, merci. Voilà. D'accord, merci beaucoup.
J'ai dû peut-être... voilà. Alors, je voulais vous remercier pour d'abord votre présence, encore une fois, puis pour des questions intéressantes. Et puis, je crois qu'aussi, ce sont ces questions qui font avancer la psychanalyse. Merci.